La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce troisième volet d'une série d'émissions consacrée à l'écrivain et poète communiste Louis Aragon. Communiste et même stalinien, un homme immense mais complexe, voilà ce que l'on entend en général quand on en vient à parler de la politique chez Aragon, dont on salue l'œuvre immense et l'inventivité poétique, mais dont on pointe aussi ce qui ressemble rétrospectivement à une erreur de jugement, l'absence d'un équivalent chez lui du retour de l'URSS d'André Gide. Car du résistant à l'apparatchik, on a du mal parfois à trouver la cohérence chez cet aristocrate prolétarien, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Enthoven. Il est vrai qu'Aragon ne revendiquait pas particulièrement le fait d'être cohérent et qu'il avait même théorisé dans sa pratique le mentir vrai. Je reçois aujourd'hui deux invités qui l'ont fréquenté, soit en personne, soit par les textes, mais qui ont aussi porté sur lui un regard parfois critique. D'abord Jacques Henric, écrivain et cofondateur de la revue Art Press, et en seconde partie, le critique littéraire Pierre Lepape, qui nous parlera en particulier du premier voyage d'Aragon en URSS. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Ce parti m'a toujours étonné par la capacité qu'il a de muer, de changer, de se corriger lui-même. Et les 46 années que j'y ai passées m'ont permis d'y voir, comme nulle part ailleurs, dans aucun autre parti français, se développer le respect de la science, de l'art, de la littérature, c'est-à-dire le respect croissant du travail intellectuel. De cela, plus que de n'importe quoi d'autre, j'aurais été pour l'essentiel de ma vie le témoin. Et ce soir, il fallait ici que j'en rende public mon témoignage.
Bonjour Jacques Henric.
Bonjour.
La première fois que vous avez vu Aragon, c'était avec vos parents et c'était à la Fête de l'Humanité.
Exactement. J'étais tout jeune, je devais avoir 12 ans. Mes parents, qui étaient communistes, m'amenaient à la Fête de l'Humanité, et mon père m'a dit, tu vois, ce vieux monsieur, enfin, il n'était pas très vieux à l'époque, mais pour moi, c'était un vieux monsieur déjà, c'est le grand poète de la résistance, et sa femme, c'est un écrivain russe. Ça a été la première fois.
Donc vous avez intégré le mythe très jeune.
Ah bah oui, mais bon, ma famille... me prêtait à cette direction-là. Il faut dire aussi que mes parents étaient communistes et très staliniens. Hein.
Bon. Que pensait votre père d'Aragon, par exemple, et votre mère ?
Écoutez, j'ai pas un grand souvenir. Je pense pas qu'il l'avait lu. Je crois pas. Mon père était ouvrier. Voilà, c'était une grande figure, déjà à l'époque, hein, au Parti communiste, mais pas plus. Hein.
Enfin, mais il était aimé quand même par les militants.
Oui, il était aimé, mais je vois par exemple dans les ventes de livres organisées par le CNE, il y a un personnage dont j'aurai l'occasion de parler probablement, qui est André Steele, qui était le type même de l'écrivain, alors ouvriériste, très stalinien et tout. Si on regardait un peu les foules qui se pressaient, c'était pas autour d'Aragon, c'était autour d'André Steele, notamment. Donc, oui, c'était un grand personnage, mais...
Bon, ça... Il intimidait peut-être un peu plus.
Il intimidait, et puis surtout, les rapports qu'il avait avec le Parti communiste étaient assez complexes. Hein. C'était pas quelqu'un qui était très, très, très aimé. Hein. Enfin, moi, j'ai fréquenté un peu des intellectuels communistes de l'époque, et surtout des politiques. Aragon, voilà, on s'en méfiait. Bon, parce qu'il était très célèbre, donc voilà, on lui... Je pense que même Torres devait pas avoir. Quand il y a eu un débat entre une histoire entre Steele et Aragon, Steele avait fait un compte rendu dans l'Humanité, tenait une chronique dans l'Humanité littéraire d'un livre d'Elsa Triolet qui était tout à fait respectueux, avec quelques petites quand même nuances, voilà, il osait, etc. Ça avait toute une histoire. Moi, j'ai eu le même problème, d'ailleurs, quand je travaillais à France Nouvelle avec Elsa Triolet. Immédiatement, Aragon a demandé à... C'était... à l'époque, c'était... Je ne sais plus qui dirigeait, mais enfin, ça devait être encore Thorez, de virer André Steele. Donc, avec tout le poids qu'avait Aragon, il n'a pas cédé. Donc, Steele n'a pas été viré. On a pu continuer sa chronique dans l'Humanité. C'est vous dire qu'il n'avait pas un pouvoir non plus tout puissant. Il était omnipuissant.
Et puis, il y avait eu l'histoire du portrait de Picasso. Bon, vous étiez très jeune. J'imagine que vous n'avez pas vu passer cette histoire.
Oui, oui, si, parce que j'étais très jeune. Mais enfin, quand même, oui, oui. Oui, bah, là, il a subi une humiliation incroyable. Et quand il a pris sa carte au Parti communiste, à l'époque, je pense que c'était Marty qui devait être rédacteur en chef peut-être de l'Humanité. Marty qui était quand même celui qu'on a appelé, c'est pour situer un peu le personnel politique, le bourreau d'Albacete, quand il était en Espagne, quand il se battait en Espagne. Et comme vous savez, entre anarchistes, communistes, etc., on se faisait pas trop de cadeaux. Et Marty était donc, comme son nom l'indique, quelqu'un qui a fait une répression terrible en Espagne. Et on disait, je vais citer aussi le personnage qui est François Billoux, qui a été ministre, je crois, après la guerre, qui était très proche de Marty, et qu'on disait, c'est François Billoux qui fait les listes, et c'est Marty qui les exécute. Je parle de François Billoux parce qu'il se trouve que ça a été le directeur de France Nouvelle, où moi, j'ai écrit pendant plusieurs mois,
alors
plusieurs
années. Alors justement, on va parler précisément de ça. Reprenons peut-être du début, vous adhérez au Parti communiste alors que vous n'avez pas 20 ans, en 1955, vous devenez militant, mais en même temps, vous lisez Kafka, vous lisez Céline, vous lisez L'autre à Hamon, et ça passe pas toujours très bien.
Eh oui, c'est compliqué. On est tout jeune, on entre au Parti communiste et puis on se trouve avec tout un milieu d'écrivains qui sont ce qu'on appelait les écrivains ouvriéristes. Enfin, c'était le réalisme socialiste en peinture et en littérature. Et moi, alors là, ça me sortait par les yeux. Moi, mes lectures, c'est celles que vous citiez là. Pensez, lire Céline à l'époque, quand on est un jeune militant communiste, c'était pas très bien vu. Donc, il a fallu quand même que je sois assez habile quand je tenais les chroniques dans France Nouvelle pour défendre ce que j'avais à défendre, ce que j'aimais, et en même temps, malgré tout, de faire quelques concessions, parce que de temps en temps, j'étais obligé de faire un entretien avec Aragon ou rendre compte d'un livre d'Elsa Triolet. Bon, ça, c'était les petites concessions. Je le faisais sans complaisance, mais bon. Et ça m'a valu, en effet, moi aussi, des problèmes avec Elsa Triolet et Aragon à l'époque.
Parce que quel problème ?
Bah, parce qu'elle trouvait que mon compte-rendu n'était pas suffisamment...
Donc elle réécrivait ?
Non, ah non, 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 on n'a rien touché. Alors, je dois dire que pendant, je sais pas combien j'ai fait ça, plusieurs années, j'ai été critique toutes les semaines. J'ai été d'une liberté dans ce journal, qui était un journal quand même très stalinien, d'une liberté incroyable. Jamais, bon là, elle m'a fait savoir par André Steele qu'en effet, elle n'avait pas du tout aimé mon compte-rendu, mais enfin, pas plus, hein, pas plus. Simplement, j'étais quand même un petit peu, disons, dans le viseur de ces gens.
Mais France Nouvelle, c'était pas encore les lettres françaises.
Pardon ?
France Nouvelle, c'était pas les lettres françaises, non, alors, donc c'était pas directement
Aragon. En fait, moi, j'ai commencé à écrire, quand j'étais tout jeune, dans les lettres françaises. Je faisais des chroniques. Alors, moi, j'étais prof dans un collège en province. J'étais rarement à Paris. Et on me confiait des comptes rendus, en général, d'expositions de peinture ou de théâtre pour les lettres françaises. Voilà. Donc là, à l'époque, je n'ai pas tellement rencontré Aragon. Je l'ai rencontré, en fait, quand j'ai commencé à faire mes chroniques dans France Nouvelle.
N'avait réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'or, ni la prière aux agonisants. 11 ans, déjà que cela passe, vite 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, par ceux qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants.
Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent,
23 qui donnaient le cœur avant le temps,
23 étrangers, nos frères pourtant,
23 amoureux de vivre en mourir,
23 qui criaient la France en s'abattant.
Vous avez reconnu Jacques Henrich?
Bah, j'ai reconnu, oui, le texte d'Aragon. Moi, je dois dire, je préfère quand c'est
ah chanté. Oui, c'est pas une bonne interprétation.
Si, non, c'est bien, mais...
Alors, je cite pour mémoire qu'il s'agit du groupe de rap La Vie d'Artiste. À quel moment vous l'avez rencontré, alors, vraiment, Aragon?
Bah, vraiment, je l'ai rencontré quand j'ai commencé mes chroniques à France Nouvelle, c'est-à-dire quand même, disons, dans les années 63-64. Alors là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent. Bon, j'avais des rapports amicaux avec lui. Enfin, il était très paternaliste. Hein. Tout le monde qui l'ont connu de ma génération et même des gens plus âgés, il les appelait fils, petits.
Donc très proche quand même des journalistes.
Ah non,
de sa rédaction.
Oui, mais il était très séduisant. C'était formidable. Non. Et puis surtout pour moi jeune, c'était pas le Aragon stalinien, c'était le surréaliste, auteur du Paysan de Paris. Et évidemment, moi j'étais complètement fasciné par ce personnage. Il avait des côtés assez agaçants hein, quand je faisais des entretiens avec lui, mais ça a été raconté, ça, je sais pas combien de fois par Solers. Il fallait à tout prix d'abord qu'il vous lise des morceaux de ce qu'il était en train d'écrire avec cette voix qui, faut bien dire, très datée, assez insupportable. Moi, je me suis toujours demandé, il y a une chose que j'aimerais connaître, c'est la voix qu'avait Aragon quand il était jeune. Il ne devait pas parler comme ça à ses femmes, à ses maîtresses. C'est pas possible avec cette voix. Mais je crois pas. Mais malheureusement, je ne sais pas si on a des enregistrements d'Aragon jeune.
Oui, mais quand vous le voyez, il déclamait pas toujours. Il devait quand même parler normalement. Non ?
Oui, mais quand je faisais des entretiens, par exemple, j'ai gardé les entretiens que je faisais avec lui sur Blanche et l'oubli. Il a toujours ce Blanche n'est pas un enfant. Je ne savais plus rien de ce qu'un enfant sait. Enfin, c'est insupportable. Éluard avait le même débit. Mais ça, c'était une chose d'époque. Hein.
Donc une absence de naturel total, alors, chez Aragon.
Oui, c'est une voix de théâtre. C'est j'ai beaucoup, comme jouait un peu Gérard Philippe, voilà, mais c'est une chose d'époque. Mais en même temps, quelqu'un disait hier dans votre émission que c'était en même temps assez intéressant d'entendre, quoi, oui.
Et quel genre de patron c'était? Est-ce qu'il avait l'esprit d'un journaliste, l'esprit d'un rédacteur en chef, ou est-ce qu'il était toujours finalement un écrivain, même aux lettres françaises?
Alors, attention, parce que moi, aux lettres françaises, je l'ai peu connu quand je faisais mes articles. Je passais pas par lui, hein. Je passais par Pierre Dex, qui était un peu son coupe-jarret, il faut bien dire. J'ai des mauvais souvenirs. Mais quand je travaillais à France Nouvelle, c'était pas mon patron. Il avait aucun regard sur...
Non, mais vous chroniquiez aussi pour les lettres françaises. Bon,
oui, mais j'avais abandonné. Puis moi, les lettres françaises, c'était la peinture, le théâtre, etc. Tandis que à France Nouvelle, moi, c'était la littérature. Et c'était beaucoup plus, je veux dire, politiquement et idéologiquement, c'était plus intéressant, évidemment, pour moi, et ça avait plus de poids. Et je suis sûr que le fait, par exemple, que je parle d'auteurs, de certains auteurs que vous citiez, ou alors surtout, ça s'est envenimé quand j'ai commencé avec mes amis de tel quel, de systématiquement rendre compte de tous leurs livres, avec une liberté encore une fois totale, mais c'était l'époque aussi où les gens comme Solaire s'étaient rapprochés du Parti communiste. Bon, le fait que je fasse ça agaçait terriblement Aragon. Et quand j'ai publié, moi, mon premier livre dans la collection telle quelle, qui était Archer, Solers avait fait un entretien de moi pour les lettres françaises, où il me demandait d'expliquer mon rapport en tant que militant révolutionnaire, puisqu'on disait quand même que le Parti communiste est un parti de masse, mais un parti d'avant-garde aussi, et puis le fait que j'étais un écrivain d'avant-garde. Donc j'ai fait un entretien qui était destiné aux lettres françaises, et l'entretien a été censuré, n'est pas passé aux lettres françaises, alors que j'étais militant communiste.
Mmh.
Bon,
mais
vous
justement...
voyez les choses bizarres. C'est-à-dire que j'avais plus de liberté, et mes amis de tel quel avaient plus de liberté dans ce journal très stalinien qui était France Nouvelle, que dans les lettres françaises qui soi-disant s'ouvraient à l'époque, mais nous étaient complètement interdite.
Donc ça veut dire que l'avant-garde n'existait pas vraiment dans le journal qu'Aragon, qui lui-même avait fait partie et avait revendiqué énormément son appartenance à une avant-garde, dirigeait.
Non, ça n'existait pas.
Comment vous expliquez ça?
Bah, c'était aussi le fait que Aragon, il était encore... il commençait un petit peu à évoluer. C'est l'époque où il publie, à mon avis, ses très grands livres de la fin, qui sont vraiment, pour moi, des chefs-d'œuvre. Mais il était encore sur cette espèce de voie post-stalinienne. Alors, on avait dans les lettres françaises, on avait les poètes. Vous savez, il y avait Madame Triolet qui, toutes les semaines, recevait les jeunes poètes qui venaient réciter leurs petits poètes. Il y avait Jacques Roubaud, d'ailleurs. Il n'en parle pas beaucoup. C'est amusant, mais il a pas de raison de ne pas en parler. Et alors, Madame était là sur son sofa, et les jeunes, etc. Bon, moi, je peux vous dire que moi et mes copains, ça me gonflait complètement, ces histoires-là. J'avais rien à voir avec ça. Et donc, là, il y avait d'autres raisons. Il y avait des raisons politiques aussi. C'est que à un moment, on virait vers le maoïsme.
Bon, alors là, vous voulez dire tel quel ?
Bah, tel quel, oui. Moi, j'étais pas membre du comité de rédaction, mais enfin, j'étais ce qu'on appelle un compagnon de route, pendant que Solers et autres n'étaient pas membres du Parti communiste, mais des compagnons de route. Les seuls de l'époque qui étaient, moi, depuis très longtemps, membres du Parti communiste, c'était moi, et Pierre Guyotat, un ami qui est rentré, lui. On l'a quitté d'ailleurs en même temps. Alors, il y a eu des événements, il y a eu la censure de mon texte dans les lettres françaises. J'avais envoyé une lettre au camarade Aragon assez furibarde. Et je peux raconter une anecdote, c'est que quand j'ai rencontré, ça donne une idée aussi de qui était Aragon, quand je l'ai rencontré beaucoup plus tard, on avait eu déjà des échanges assez vifs et tout, il était au bord de la mer avec tous ses petits amis, c'était l'époque où il était passé quand même de l'autre côté du miroir, si je puis dire, qui était là, qui vibrillonnait et tout. Moi, je le vois, j'étais avec un ami, je me dis, bon, faut pas qu'il me reconnaisse. Bon, à un moment, il m'a reconnu, je crois que c'est Rista qui est venu vers moi en me disant, est-ce que Louis peut venir vous parler? Je lui ai dit, bien sûr. Bon. Et Aragon vient vers moi et me dit, alors, petit, comment ça va, votre livre,
livre. C'était pas mignon, non? C'était petit encore. Ouais.
Oui, petit ou fils. Fils. Ah, comment ton livre Archer a marché? Je lui dis, je le vous voyais, moi, j'ai jamais osé le tutoyer, bien que camarade. Je lui dis, mais écoutez, Aragon, c'est pas de votre faute, parce que je vous signale que votre journal m'a censuré. Mais comment, vous savez, mais je suis entouré d'une bande de nuls. Moi, je ne savais pas. Ce sont, vous savez, Elsa Triolet et moi-même sommes censurés dans notre propre journal. Bon, je vous dis bonjour chez vous. Hein. Et le deuxième élément.
Donc c'est le côté finalement pas très franc en fait que vous.
Bah le côté, on le connaît comme ça. Oui, un peu retors quoi. Alors c'est possible que ce soit pas lui qui a empêché mon entretien de passer. C'était peut-être Pierre Dex ou quelqu'un d'autre. Mais enfin, il était directeur du journal, moi je le tenais responsable. Bon. Alors après, évidemment, il y a eu, après les rapports avec lui sont durcis, puisqu'il y a eu le deuxième élément grave touché par un membre du Parti communiste, ça a été l'histoire de Pierre Guyotat.
Alors on peut raconter justement cette histoire de ce qui s'est appelé l'affaire Eden. Redire que Eden, c'est un roman de Pierre Guyotat scandaleux à la fois politiquement et aussi dans son caractère sexuel. Et les lettres françaises d'Aragon ont descendu en flèche ce livre. Alors c'est un petit peu la même question que tout à l'heure, c'est le rapport à l'avant-garde aussi. Comment est-ce que quelqu'un comme Aragon peut ne pas comprendre Eden.
Oui, c'est ce qui nous faisait poser beaucoup de questions. On se disait, mais où est passé le surréaliste? Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon. Et là, l'article contre Guyotat. En plus, ils ont été lâches aussi bien Aragon que Pierre Dex. Ils n'ont pas demandé un critique littéraire habituel des lettres françaises. Ils ont demandé au type qui faisait la peinture, un vieux là, bourré, qui a fait son truc, qui était ignoble, son truc. C'est Guyotat, faut le faire soigner, c'est un malade, un obsédé sexuel et tout. Bon. Ce qui a donné autre chose après comme réponse, qui a été littérature interdite, où Aragon à nouveau a été. C'est pas très bien comporté, puisque quand dans ce livre, Guyotat et puis moi qui avais participé au ce livre, on a attaqué très violemment Aragon, c'est vrai. Gallimard ne voulait pas publier le livre.
Donc on peut dire que Littérature interdite, c'est un livre qui réunissait les entretiens accordés par Guyotat et les articles suscités par son livre Eden. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre, c'est le dossier de son interdiction.
Oui, absolument.
Donc, quand Aragon essaye d'empêcher que Gallimard publie ce livre, il essaie de pas faire sortir le dossier, quoi, c'est ça?
Oui, il faut dire que dans le livre, qu'est-ce qu'on lui mettait, hein, surtout Guyotat. Puis Guyotat était assez bon dans la polémique, hein, traité de Dieu gâteux, enfin tous les noms. Bon, alors Aragon a dit c'est possible, moi je n'ai rien demandé. Bon. En vérité, en effet, il s'est pas opposé, parce qu'il avait quand même un poids chez Gallimard. S'il avait dit, vous publiez ça et je fous le camp, chez Gallimard, Guyotat, il faisait pas le poids, hein. Or, le livre a été publié sans que rien ne soit changé. Bon. Il faut savoir aussi, quand même, pour le Parti communiste, qu'il y avait quand même une revue très importante, qui était la revue des intellectuels communistes, qui s'appelait La Nouvelle Critique, et qui a défendu Guyotat, et qui n'était pas d'accord avec Aragon. Voilà.
J'ai rencontré Henri Matisse à Nice en 1941. Nous habitions, Elsa Triolet et moi, une petite chambre sur la mer, au Ponchette. Et Matisse m'a su que nous étions là et m'a invité chez lui. J'ai été une fois, deux fois, trois fois, et puis finalement, dans cette grande période qui était pour nous une période de solitude et de tristesse, je suis devenu un familier de Matisse. J'ai été tous les jours chez lui, passé avec lui des heures, d'abord pour la conversation, et puis tout naturellement, il m'a demandé d'écrire un texte pour lui, pour les dessins qu'il était en train de faire. Et d'ailleurs, il comparait en général son dessin aux jeux athlétiques et aux jeux du cirque, n'est-ce pas? Et il s'agissait pour lui, de même que l'acrobate fait un geste parfait et pour cela le répète sans fin jusqu'à ce qu'il soit parfait, il refaisait son dessin jusqu'à ce qu'il le connaisse assez pour que le dessin devienne comme l'expression d'écriture parfaite de la réalité. Et les choses étaient pour lui, à ce moment-là, présentées comme des signes, comme sont les lettres d'un alphabet nouveau. Tout cela était destiné à un livre qui a paru, d'ailleurs, un peu plus de 2 ans plus tard, et qui portait en tête un titre général, mais dont la partie écrite par moi s'appelait « Matisse en France » avec des traits d'union, comme si Matisse avait été un village.
Vous vouliez entendre la voix d'Aragon, Jacques Henrique, votre vœu est exaucé, on a choisi cette archive parce qu'on connaît votre intérêt pour les arts plastiques, et du coup, j'aimerais quand même vous interroger sur le rapport de Aragon avec les artistes plastiques de son temps, et Matisse en particulier.
Moi je dois dire, alors puisqu'on vient d'entendre cet extrait, que je tiens ce livre d'Aragon pour un chef-d'œuvre. Moi, c'est un des livres alors vraiment que j'aime beaucoup.
C'était un bon critique d'art plastique.
Oui, quand il parlait pas de toutes les cochonneries soviétiques d'une époque.
Oui, qui défendait beaucoup.
Ou alors des peintres que j'ai connus moi, j'oubliais les noms, Tazlitsky, des gens comme ça, qui faisaient du réalisme socialiste.
André enfin. Fougeron.
Fougeron, c'était l'horreur. Bon, vous imaginez Picasso quand il voyait un article d'Aragon écrivant sur Fougeron. Les rapports entre Picasso et Aragon n'ont jamais été très très étroits. Hein. Picasso avait pas beaucoup de sympathie pour Aragon, ça se sentait. Bon,
c'était pas le même genre de communisme aussi Picasso et Aragon. Picasso était quand même très distant par rapport au parti, alors que
Aragon et Picasso avaient une liberté à l'égard du parti que n'avait pas malheureusement pour lui Aragon. Enfin, il ne s'est pas donné cette liberté là. Bon, c'était un choix. Alors, moi, à l'époque, qu'est-ce que je vous dis, je pouvais pas, tout ça, pour moi, c'était rien du tout. C'était une catastrophe. C'était comme les poèmes engagés, les histoires, poèmes sur, les militants communistes et tout ça.
Mais le fait qu'il ait aimé Matisse, est-ce que ça change pas, et qu'il en ait parlé aussi bien que vous le dites, est-ce que ça ne change pas encore un petit peu la vision qu'on a du personnage?
Bah oui, il est complètement contradictoire, mais je crois que fondamentalement, il avait très bon goût. Il aimait beaucoup Matisse, bien sûr. Je pense que ses histoires avec Fougeron et tout, c'était une sorte de surmoi politique. Moi, j'ose espérer que c'était ça, mais que c'était pas son goût. C'est pas possible.
Mais du coup, c'est terrible de tordre son goût comme ça, à ce point-là, pendant toute sa vie.
C'est un choix qu'il a fait, hein. Et je dois dire que, si vous voulez, moi, à l'époque, je trouvais ça minable. J'avais une espèce d'image d'Aragon très négative. Le temps passant, maintenant, je me dis dans le fond, bon, on peut dire il a été lâche, il a été tout ce qu'on veut, il a avalé. Faut dire qu'il a avalé des couleuvres.
Hein. Il a dû se défendre au Parti communiste aussi.
Écoutez, quand il a commencé à écrire dans l'Humanité, c'était Marty à l'époque qui devait être rédacteur en chef. On lui donnait les chiens écrasés. Et il était vraiment humilié. Il a été humilié sur l'histoire du portrait de Staline. En plus, bon, des humiliations, il en a subi. Bon, alors c'est vrai. J'ai aussi compris après la mort d'Elsa. Ce que pouvait représenter d'un seul coup cette libération, évidemment sur le plan sexuel, bien sûr.
Donc cette libération, c'est pour lui finalement accepter, alors on n'en sait rien en fait, mais bon, accepter qu'il y a chez lui une attirance pour les garçons.
Mais écoutez, moi je vais vous raconter alors une anecdote, c'est que quand je faisais des entretiens une fois, je me souviens, je faisais un entretien chez lui, et alors toutes les 30 secondes, il y avait la mère Triolet qui venait. Bon, oui, bon, et je me disais, mais bon, ça va, je coupais, ça n'avait aucun intérêt ce qu'elle venait faire, bon, et puis à un moment, Aragon, après son entrée, je sais pas, plusieurs fois, comme ça, qui interrompait notre entretien, me fait, vous savez, ce geste-là, la barbe, je n'en peux plus. Bon, je me suis dit, tiens, pourquoi il me dit ça? Moi, j'ai rien compris, j'étais tout jeune à l'époque. Bon, c'est après André Steele, avec qui j'étais très lié, qui m'a dit, oh, mais tu sais, tu ne sais pas tout sur Louis. Bon, et la deuxième chose aussi qui m'avait alerté, c'est que j'enseignais dans un petit collège de près de Reims, j'étais donc militant communiste, j'écrivais dans France Nouvelle, Aragon, je ne sais plus pourquoi, est passé, il allait voir Steele, ou je ne sais pas ce qu'il faisait, il m'avait demandé d'ailleurs d'aller le promener un peu là où il avait été enterré en 17.
Alors ça, c'est aussi une toute autre histoire qu'il faudrait essayer de raconter.
Passons. Non, ouais. Cette fois-là, c'est André Steele qui vient me chercher et on va à l'enterrement d'Elsa Triolet, du côté de Rambouillet, dans son moulin. Bon, moi j'arrive, je me dis, oh là, je vais voir Aragon effondré, parce que les yeux d'Elsa, tout ça. Et alors, je vois toute la troupe autour de lui, Marcenac, tout ça, qui était là en pleurs, etc. Et je vois mon Aragon qui était là, qui papillonnait, qui, bon, ouais, voilà, il recevait, c'était un peu mondain. En rentrant dans la voiture, je dis un style qu'il connaît bien, je dis, mais je comprends pas. Ah, il me dit, tu ne sais pas tout non plus de la vie d'Aragon. Alors, je veux pas dire par là, hein, que ça n'a pas été un truc très douloureux, la mort d'Elsa Triolet. Hein. Pas du tout, hein. Ça serait absurde de ma part et de dire ça. Mais, néanmoins, il y avait quelque chose que j'ai senti bizarre. Alors, si vous voulez, quelques temps après, j'ai un peu compris aussi ce qui se passait, parce que pourquoi elle rentrait tout le temps pendant que je faisais l'entretien? Parce que j'étais un jeune garçon, j'étais pas si mal à l'époque, bon. Et elle savait tout. Et quand j'ai dit à Steele, quand j'ai su après ce qui s'était passé, quand Aragon, c'est celui-là qui m'a dit, j'ai vu Aragon, on dirait le baron de Charlus. Et quand je l'ai rencontré avec tous ces petits minets, etc., moi aussi.
Donc François-Marie Bagnier.
Je l'ai pas reconnu. Moi, j'avais vu l'apparatchik en costard, très chic, cravate, et sur le côté, là, je vois ce bonhomme. Donc je trouvais très sympathique, moi. Bon, et à ce moment-là, j'ai dit à Steele, mais vous avez été très surpris au Parti communiste de le voir. Il me dit, tu rigoles, mon pauvre. Mais on savait ça, mais depuis toujours.
Mais quand même,
d'Aragon pour les garçons.
Les camarades communistes lui en ont beaucoup voulu.
Ah oui, fallait pas. C'est comme toujours, fallait pas le dire, et puis surtout pas se mettre à faire bon.
Est-ce que vous diriez, Jacques-Henri, qu'on terminera par là? Comme Catherine Millet, qu'il vaut mieux être fasciste avec Dali que communiste avec Aragon.
C'est pas elle qui a dit ça, j'espère.
Ah bah écoutez, je l'ai lu.
Ah bon, il faut mieux être fasciste. Bah alors je dirais d'abord que Dali n'a jamais été fasciste, première chose, donc c'est autre chose, on peut parler de Dali si vous voulez, que communiste avec Aragon. Je dirais que les engagements de Dali et ceux d'Aragon n'ont pas grand-chose à voir. Et à mon avis, ceux d'Aragon, on va pas faire le compte des morts du franquisme et du goulag, mais je sais pas, sur un plateau de balance, en effet, on pourrait s'amuser avec ça. Enfin bon,
C'était une question un peu piège. Merci beaucoup, Jacques-Henrique. Oui. 14h30 sur France Culture, 15h30, c'est le moment de retrouver notre séquence en compagnie des revues. J'accueille aujourd'hui autour de cette table le directeur de la Nouvelle Revue Française, Michel Crépu. Bonjour Michel.
Bonjour.
La NRF, dont le numéro de mars affiche en une un hommage de Richard Ford à un autre écrivain américain disparu en 2015, James Salter.
Oui, il s'agit en effet on pourrait dire, de l'oraison funèbre que Richard Ford a prononcé le jour de l'enterrement de James Salter. Et donc c'était un grand écrivain américain s'adressant à un autre grand écrivain américain. Le texte en lui-même est très beau, très simple, d'une très belle dignité de ton. Et c'est aussi un peu une manière de s'interroger sur l'actualité, le présent de la littérature américaine, de sa prééminence ou au contraire d'un autre cycle qui commence. Philip Roth a fait savoir qu'il s'arrêtait d'écrire des romans. Donc on est dans un moment.
Donc pour vous, faisons cette parenthèse. Oui. C'est un nouveau cycle qui commence alors.
Pardon ?
C'est un nouveau cycle qui commence ?
Oui, certainement. Oui, certainement. Et c'est comme ça que la littérature marche, d'ailleurs. C'est par recommencement successif. Et en ce qui concerne la littérature américaine, c'est particulièrement significatif, je trouve, en ce moment.
Alors, dans cet entretien, on apprend... Enfin, c'est pas un entretien, pardon, dans ce texte. On apprend que Richard Ford avait aidé à obtenir un poste d'écriture créative à James Salter. Preuve, s'il en était besoin, combien il mettait haut, finalement, la technique d'écrivain de Salter.
Oui, c'est quelque chose qui déroute toujours énormément les écrivains français ou européens, qu'on puisse imaginer des ateliers d'écriture. On apprend à écrire des romans. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens pour un Européen. Mais aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Et d'une certaine façon, il y a un côté menuisier, il y a un côté...
artisan.
Tu veux écrire des livres, bon ben voilà, je vais t'apprendre à te servir d'un marteau, d'un clou, et voilà comment on fait une phrase. Les résultats ne sont pas forcément négatifs. Enfin, on peut effectivement aussi imaginer qu'écrire un roman puisse relever d'un apprentissage. Pourquoi pas.
On parle beaucoup de la France dans ce texte.
Oui, parce que la France ne peut que hanter à sa façon la psyché littéraire américaine et nombreux sont les écrivains américains qui ont fait valoir leur dette à l'égard de Maupassant, de Flaubert, Philip Roth encore pour continuer à le nommer, n'a jamais caché ça, tout ce qu'il devait à Flaubert.
Également dans la NRF de ce mois-ci, Michel, dans la rubrique documents, des pages inédites du journal de l'avocat et écrivain Maurice Garçon.
Oui, alors ça c'est tout à fait évidemment autre chose, ça nous ramène à Paris et à ce personnage tout à fait extraordinaire qui a été Maurice Garçon, qui a tenu un journal depuis la guerre de 14 jusqu'à sa mort en 67, on n'en a publié que la séquence qui concerne la Seconde Guerre mondiale où on apprend beaucoup de choses et là il s'agit de quelques pages inédites et où figure notamment un portrait, une rencontre avec Simenon qui est encore débutant mais qui est déjà un Rastignac extraordinaire de la littérature et Garçon en fait un portrait très drôle, très très amusant et rétrospectivement d'une très grande justesse.
Et bien tout cela est donc à retrouver dans la NRF. Merci beaucoup Michel Crépu et puis on vous retrouve bientôt
Merci à
ce
vous.
Même micro. Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous allons bientôt, en cette seconde partie, être rejoints par le critique littéraire Pierre Lepape pour continuer de parler d'Aragon. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une archive, qui est aussi un morceau de bravoure. C'est Aragon décrivant le soir du 8 mai 45, presque à la façon, vous allez l'entendre, d'un commentateur radio.
Cela crie dans toutes les directions. Les avions, les boum-boum d'un orchestre, le canon. Revoici les étudiants de tout à l'heure avec le portrait de Staline. Ils crient « Lessivage partout, lessivage partout !» Un grand drapeau anglais sur la foule. Par-dessus l'arc monte des fusées, sous l'arc un immense V. Il y a dans la foule, par-ci, par-là, des gens qui pleurent. Il y a pourtant la joie, malgré les gens qui pleurent. Un quart de police, mais sur ce quart de police, il y a sur les marchepieds des gens perchés. Les quarts de police sont aussi des quarts de joie aujourd'hui. De temps en temps, le canon tonne. Un triporteur passe avec des hortensias roses. Embrassez, embrassez, crient des jeunes gens. L'énorme charroi des avions. Encore, encore des monômes. Un autre monôme est dans les Champs-Élysées. Voici trois soldats soviétiques arrêtés qui nous regardent. Voici des marins couverts de rouge sur les joues tant ils se sont fait embrasser. Voici des petits marchands de drapeaux. Voici des aviateurs, des marins. Voici des Américains qui, s'embrassant deux à deux, chantent pour les Français. Frère Jacques, digne d'un don. Quelle journée extraordinaire!
Et un témoignage qui nous arrive par téléphone d'une collaboratrice bien connue des auditeurs de France Culture, Geneviève Méric, qui a travaillé pendant de nombreuses années ici, qui nous dit qu'elle a vu de ses yeux vus Aragon dans les années 70 vendre l'humanité à la sortie d'une église dans le 7e. Décidément, Aragon est partout. Bonjour Pierre Lepape.
Bonjour.
Quelle journée extraordinaire que celle du 8 mai 1945 décrite par Aragon. Il y a tout de même du talent dans la manière de retranscrire l'émotion par cet écrivain.
Ça prouve qu'Aragon pouvait écrire n'importe quoi.
Il pouvait tout faire,
dans,
en fait.
Dans tous les sens du terme, je veux dire. Pas aussi bien dans la célébration lyrique, aussi bien dans la poésie intime. Enfin, tout lui était possible.
Donc tout est n'importe quoi, c'est ça ?
Tout est n'importe quoi, bien sûr. Y compris la littérature la plus détestable, mais il savait aussi l'écrire.
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vous classer tellement parmi les admirateurs d'Aragon, Pierre Lepape. Vous avez notamment écrit en 1997 un petit texte assez virulent à son sujet. Je l'ai sous les yeux, voulez-vous que j'en lise quelques lignes ?
Possible.
Que reste-t-il d'Aragon, stalinien ignominieux, ami félon, amoureux truqueur ? Rien ou presque. Des rancunes qui disparaîtront avec la mémoire de ses contemporains, de la matière à psychanalyse, des énigmes pour biographes, quelques points d'exclamation pour jalonner les chemins tortueux de l'histoire intellectuelle de ce siècle. Vous n'y êtes pas allé par le dos de la cuillère ?
Non, j'aurais dû ajouter qu'il restera quand même des textes, et c'est sans doute l'essentiel, Là, c'était une partie des choses,
oui.
Mais ça me paraît aussi évident.
Pour être très honnête, j'ai pris la partie la plus à charge. Vous dites aussi, s'il est vrai qu'Aragon n'eut pas la prudence ou la complaisance de placer ses livres hors d'atteinte des violences partisanes, si même il les y plongea avec un sens affirmé de la provocation, les remous et les clameurs n'ont jamais suffi à masquer l'évidence et l'ampleur de son génie.
Voilà. Bon, c'est mieux comme ça quand c'est complété.
Qu'est-ce qui prédomine alors quand même à la fin ?
Ce qui prédomine à la fin, c'est l'énigme du personnage. Je crois que c'est essentiellement ça. Je veux dire, comment est-ce que un jeune écrivain révolutionnaire des années 30 et qui redeviendra dans les années 70, un écrivain révolutionnaire, comment il a pu, d'une certaine manière, s'abandonner. Quel démon intérieur a pu le pousser à s'emprisonner dans, dans, dans une série de masques, dans une série d'attitudes.
Et quand vous dites de masques, vous ne dites pas ça par hasard ? Parce qu'il portait lui-même parfois
des masques. Oui, à la fin de sa vie, je me souviens même d'Aragon à la fête de l'humanité, portant à la main, sur le visage, un masque de comédien et une émission de télévision qui lui avait été consacrée, une longue série d'émissions de télévision qui durait 6 heures et pendant laquelle Aragon n'apparaissait jamais tel que lui-même, mais derrière ce masque totalement fermé qu'il portait devant le visage.
Alors, vous avez travaillé au monde des livres, notamment. Le monde des livres, c'était à partir de 1995, je crois.
1985.
Ah, pardon, 1985. Qu'est-ce qu'on pensait d'Aragon, qui était déjà mort, mais est-ce que c'était une figure qui, au monde des livres, avait sa place, et qu'est-ce qu'on pouvait dire sur lui ?
Il n'y a pas eu beaucoup de textes d'Aragon qui aient été publiés après sa mort.
Vous pouviez en parler peut-être entre vous ?
On parlait entre nous, mais je crois qu'en globalement, pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était à la fois un écrivain immense, sans doute peut-être le plus grand écrivain de ce siècle, je le pense profondément. En tout cas un romancier et un poète de tout premier ordre, et en même temps un personnage d'une certaine manière épouvantable.
Et qu'est-ce qui en ferait le plus grand écrivain du siècle ?
La multiplicité de ses dons, son savoir. Je veux dire que Breton disait d'Aragon, et Breton était difficile dans la matière, Aragon a tout lu. Et il le disait ça avec même une certaine jalousie, je dirais. Et Aragon avait une connaissance des littératures, mais de la littérature française en particulier, qui lui permettait d'utiliser aussi bien des formes poétiques du XIIe siècle que d'aller à l'avant-garde de la poésie. Et cette capacité-là, même dans ses romans les plus traditionnels, les plus classiques, les plus enfermés dans le réalisme socialiste, il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, déborde de cela et fait que ça n'est jamais sans intérêt.
Alors nous sommes surtout là pour parler avec vous, Pierre Lepape, des liens d'Aragon avec le Parti communiste et de son premier voyage en URSS que vous avez raconté dans votre livre Le pays de la littérature, paru au Seuil en 2003, un voyage qui a eu lieu à l'été 1930, mais avant cela, une petite ouverture soviétique.
Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наше верное корыто нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишник ФНН.
Но за малым Alors ça y est, Pierre Lepape, on est dans l'ambiance. Vous pouvez нous raconter l'origine de ce voyage en URSS, le premier d'Aragon, c'était dans les années 30.
C'était en 1930, alors Aragon ne s'est jamais expliqué sur ce voyage. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Union soviétique en 1930 ? Quand on lui a posé la question, il n'a jamais voulu répondre. Il est toujours resté en disant « j'ai préféré l'Union soviétique aux Baléares », ce qui était quand même une manière de... Et évidemment, il est allé... Il y avait un congrès des écrivains de prolétariens...
Le plénum de Kharkov.
À Kharkov, qui avait lieu à ce moment-là, il n'y avait pas de délégation française. La délégation française avait été annulée. C'est-à-dire que c'est Henri Barbus, qui était un militant communiste tout à fait traditionnel, parfaitement fidèle, qui mourra d'ailleurs à Moscou quelques années plus tard. Mais Barbus était l'ennemi des surréalistes. en tout cas les surréalistes voulaient la peau de Barbus, et Barbus était mal vu par les apparatchiks communistes de Moscou. Et donc on a décidé qu'il n'y aurait pas de délégation française à ce congrès international des écrivains prolétariens.
Mais là, coup de théâtre, il se trouve que les vacances d'Aragon sont précisément dans l'Union soviétique. Pas tout à fait les vacances d'ailleurs, parce qu'il avait une raison quand même familiale pour se trouver en Union soviétique.
Il allait voir Lili Brick, qui était la sœur et la maîtresse de Maïakovski. Qui venait de mourir, et donc Brick a entraîné un peu Aragon avec lui. Brick faisait partie d'une aile gauche du mouvement prolétarien, et il a essayé de pousser un peu Aragon à l'aider. Aragon a retrouvé, faut dire aussi, Georges Sadoul, le futur grand critique de cinéma, et tous les deux, d'une certaine manière, ont été adoubé pour devenir la délégation française là-bas. Mais avant, ils ont été obligés de signer un texte. Et dans ce texte en particulier, ils dénonçaient le deuxième manifeste du surréalisme, et ils dénonçaient le surréalisme comme un mouvement petit bourgeois.
Donc c'est-à-dire que Aragon, qui est à l'époque encore surréaliste, oui, officiellement, dénonce ce à quoi il appartient. C'est quand même quelque chose.
Oui, oui. Mais l'idée, c'est je vais d'une certaine manière, peut-être poussé par Elsa, je vais devenir la tête de pont entre Paris et Moscou. C'était peut-être ça son idée politique.
C'est ce que vous croyez, vous? C'est votre hypothèse à vous?
Il n'y a pas vraiment d'hypothèse qui tiennent complètement, puisque en rentrant en France après ce congrès de Kharkov, Aragon a de nouveau renoué avec Breton, qui lui pardonnait beaucoup. Breton l'admirait d'une certaine manière quand même. Et de nouveau, il a écrit ce fameux poème qui s'appelait « Front rouge », qui a fait scandale et qui lui a valu d'être poursuivi en justice. « Front rouge », qui est un poème où l'on appelle à fusiller un certain nombre de sociaux-démocrates, fusiller Léon Blum, feu sur Léon Blum, feu sur la social-démocratie, etc. Et l'interdiction les poursuites qui ont eu lieu contre Aragon, les surréalistes ont aidé Aragon, en quelque sorte, l'ont soutenu.
Oui, parce qu'il a été inculpé pour provocation au meurtre.
Provocation au meurtre. Et les surréalistes s'en sont sortis en disant « mais c'est une licence poétique ». Ce qui était assez étrange, puisque c'était en une certaine manière ne pas revendiquer la responsabilité de ce qu'on écrivait. Et Aragon, à ce moment-là, a pris fait et cause contre Breton et contre les surréalistes qui le soutenaient, pour dire que leur position était intenable et qu'il rompait avec eux.
Donc c'est un moment finalement très important dans la vie d'Aragon. Il va à Kharkov, dénonce ce qu'il a fait jusque-là. Il est pardonné par les surréalistes. Les surréalistes l'aident devant les tribunaux. Et là, il va mettre un dernier coup fatal finalement, oui, à sa relation avec le surréalisme. Donc il fait un choix qui est très clair.
Il a toujours besoin d'un groupe. Aragon ne s'est jamais pensé finalement, sauf peut-être à la fin de sa vie, en dehors d'un groupe. Il rompt avec le groupe surréaliste pour entrer dans le groupe communiste, en quelque sorte.
Et alors, a-t-il rencontré Staline à Kharkov, ou a-t-il cherché à plaire à Staline?
Kharkov, c'était résolument réservé aux écrivains.
Mais disons qu'il cherche à plaire, peut-être, pour qu'on parle de lui jusqu'à Moscou,
non? Aux écrivains prolétariens. En plus, personne ne sait en ce moment, à cette époque-là en France, que peut être un écrivain prolétarien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un ouvrier qui écrit? Et Aragon n'en sait évidemment rien. Le prolétariat, Aragon ne connaît pas très bien quand même.
Le désespoir est une forme supérieure de la critique. moment, pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur.
Alors si le congrès de Kharkov a été une grand-messe, il y a eu une autre grand-messe 10 ans après, en 1941. C'est ce que vous appelez dans votre livre la messe de Weimar.
Oui. Ça, c'est complètement autre chose.
C'est autre chose.
Et on quitte évidemment complètement Aragon. La messe de Weimar, c'est la messe où sont allés un certain nombre d'écrivains français de la collaboration.
Mais on quitte pas tout à fait Aragon parce qu'il y avait Drieu-La Rochelle.
Il y avait Drieu-La.
Et Drieu-La Rochelle, c'était quand même le meilleur ami, voire l'amant de jeunesse de Louis Aragon.
Alors, les relations de Drieu et d'Aragon sont extrêmement compliquées. Je crois que l'un et l'autre, dire, se sont vraiment tus sur leur propre relation. Je crois que profondément, Drieu était à la fois totalement séduit par Aragon, ça paraît évident, et en même temps totalement repoussé par l'idée même de l'homosexualité. Et jaloux à un point suprême, parce qu'Aragon représentait finalement tout ce que Drieu aurait aimé être comme écrivain et qu'il n'était pas. Et l'un des ressorts de l'ambition, je dirais, de Drieu, même sa prise de la NRF en 41, vient sans aucun doute de cette relation à la fois d'amour et de conflit avec Aragon.
Alors quittons Drieu, quittons Weimar et retournons au communisme. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de dégel au fur et à mesure des années quand même des convictions staliniennes d'Aragon, ou est-ce qu'on peut dire qu'il reste impur jusqu'à la fin ?
Non, Aragon reste stalinien jusqu'à la mort de Staline. C'est pas sans le moindre doute, sans la moindre inflexion. Dire par exemple son attitude vis-à-vis de Nizan, qui a été tué en 1940, mais après avoir dénoncé le pacte germano-soviétique. Donc Nizan a été l'objet après 45 d'une campagne de diffamation absolument épouvantable, et Aragon a activé cette campagne dans la presse du parti et dans les revues, etc.
Il va défendre le pacte germano-soviétique.
Il ne dira rien sur le pacte germano-soviétique. Mais ceux qui ont dénoncé le pacte germano-soviétique sont évidemment des traîtres. C'est pas, et de la même façon, son attitude vis-à-vis de Gide qui l'a lancé dans la littérature. C'est Gide qui a publié les premiers livres d'Aragon. À la NRF, lorsque Gide écrit son retour d'Urss, il devient l'ennemi. Il faut dire que dès avant, Gide était publié dans l'Humanité, alors que Aragon avait beaucoup de mal lui-même à se faire publier dans l'Humanité.
Et après la mort de Staline, alors, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'évolutions
Staline,
à noter.
Aragon suit le cours thorésien, je dirais, des choses, et ça n'est qu'après la mort de Thorez et surtout après l'intervention en Tchécoslovaquie en 68 que Aragon va prendre une légère distance avec la direction du parti et avec l'Union soviétique. Et va tuer, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, les Lettres françaises, qui étaient son journal.
Et cette distance, elle prend aussi la forme d'un une espèce de soutien, quand même, à Solzhenitsyn, ou en tout cas à sa démarche.
C'est surtout un soutien, je dirais, plus à Kundera, par exemple, qu'à Solzhenitsyn. Avec Solzhenitsyn, les Lettres françaises restent encore très prudente. Mais Aragon, en revanche, publie une préface au premier livre de Kundera intervient auprès de Gallimard pour que Gallimard publie ce texte. Donc ça, c'est véritablement la première vraie distance. Après, il parlera de Biafra de l'esprit à propos de l'intervention russe en Tchécoslovaquie.
En un mot, un livre que vous nous conseilleriez aujourd'hui, un livre qui serait le plus actuel d'Aragon en 2016.
Oh, ça c'est...
Politiquement, bien sûr, puisque c'est votre spécialité.
C'est pas ma spécialité. Non, je dirais que le Matisse roman dont parlait tout à l'heure me paraît un très grand livre et un de ces grands romans précisément que Aragon a voulu faire.
Et comme quoi finalement ce n'est peut-être pas la politique qu'on conserve à la fin chez Aragon. Merci beaucoup Pierre Le Pape.
Holy, holy, holy.
15h55 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose une sélection de poètes libertaires d'Iran, récemment traduits par Reza Afshar Naderi.
Bonjour, nous passons cette semaine avec les poètes d'Iran, des hommes, des femmes, représentant plus qu'une écriture, un engagement, un engouement public qui n'a pas d'égal dans nos sphères. Ahmad Shamlou est né à Téhéran en 1925, inscrit dans la mémoire collective comme l'emblème de l'opposition au régime de violence du Shah. Reza Afshar Naderi, traducteur et poète, lui consacre cet hymne, la légende d'Ahmad Shamlou, dont voici un extrait. L'homme, voici l'homme dans la meute des loups, de fureur est le siècle, de haine sont les croyances. Les lendemains ternis par de sombres voyances, écoutez la légende d'Ahmad Shamlou. Les martyrs passés n'auront à rien servi, voici les chaînes, le fouet, les coups, le parjure, le bâton sur l'échine, les plaies ouvertes, l'injure, l'homme encore par l'homme asservi. Nous voici à nouveau sous le règne des loups, passé l'ordre des rois vient la fureur des dieux. C'est à l'heure de baisser la tête et les yeux que soudain retentit la voix d'Ahmad Shamlou. Un homme seul devant la haine qu'on déverse quand nos jardins accueillent la foule des assassins, lorsque du sang versé rougissent nos bassins, dans sa voix un air frais qui souffle sur la Perse. Voici venir le temps de la haine et des loups, on oublie ce qu'on est, on fait ce qu'on vous dit, ici-bas l'enfer, plus tard le paradis, écoutez la légende d'Ahmad Shamlou. Son nom béni marqué au fer de l'hérésie, la fureur étouffant la voix de la raison, ils installent le deuil sur toutes les saisons, sa parole à lui n'était que poésie. Et plus tard dans le poème, tout un peuple a pour toi poète, ces mêmes yeux qui chantent la beauté, Aïda en ton miroir, ainsi qu'une ode claire montant de ce mouroir où chaque mot d'amour prend des airs d'adieu. Écoutons quelques mots d'Aïda dans le miroir d'Ahmad Shamlou. Tes lèvres, délicates comme la poésie, changent les plus lubriques des baisers en une telle pudeur que la créature des cavernes en tire avantage pour prendre forme humaine. Mais nous allons à un autre poème, un des plus fameux poèmes de Shamlou, en cette impasse. On vient sentir ta bouche, que tu n'aies dit « je t'aime », on vient sentir ton cœur, quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Quant à l'amour, on lui donne le fouet le long des remparts sentinelles. L'amour, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. En cette impasse torve, torturée par le froid, brille l'amour, par la grâce nourricière des chants et des poèmes. Ne te risque pas à penser, ma toute gracieuse, quelle étrange époque vivons-nous. Celui qui nuitamment martèle à notre porte est venu en meurtrier de la lampe. La lumière, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Et voici que viennent les bouchers, veillant à tout passage. Ils apportent la planche et les hachoirs en sang. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Ils écarissent le sourire sur les lèvres et les chants sur la bouche. La joie, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour. Les canaris sont couchés sur la braise brûlante de jasmin et de lys. Quelle étrange époque vivons-nous, ma toute gracieuse. Iblis est triomphant, Satan dans la tradition orientale, ivre attablé au banquet de nos deuils. Dieu, on l'enfouit au fond d'une arrière-cour.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des poèmes consacrés à l'Iran dans la compagnie des auteurs au terme du troisième volet de notre série consacrée à Aragon avec Jacques Henric et Pierre Lepape que je remercie tous les deux chaleureusement. Vous pouvez réécouter cette émission soit en podcast, soit en streaming sur le site internet de France Culture ainsi que toutes celles que vous avez manquées. Et cela en attendant demain et une émission en direct de Livre Paris. Non pas le salon du livre, comme on avait l'habitude de le dire. Une émission sur les romans d'Aragon, ce sera avec Daniel Bougnou. N'hésitez pas à venir nous y voir. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Jacques Azubert. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.